Après les mathématiques, nous allons vers quelques applications et vers l'informatique. Et nous allons avoir deux communications qui seront maintenant données par des informaticiens. Le premier est Gérard Huet, avec un sujet tout à fait attrayant, hein, qui a été longtemps à l'INRIA et qui s'est intéressé au rapport du sanskrit et des mathématiques à ce qu'on appelle les humanités numériques aujourd'hui et à la place du sanskrit dans ce contexte des humanités numériques. Et sa communication est intitulée « Comprendre le sanskrit de la grammaire de Panini aux machines d'Eilenberg ». Sujet donc tout à fait passionnant.
Bonjour. Comprendre le sanskrit, vaste programme. Le sanskrit est entouré d'une aura de mystère, d'ésotérisme. On ne sait pas très bien ce que c'est. Même dans des cercles intellectuels, au collège Balliol, qui a le privilège d'avoir la chaire de sanskrit à l'université d'Oxford, le dernier titulaire raconte comment il a été interviewé pour être fellow du collège. Le maître du collège lui a dit « Voilà, vous allez être fellow du collège Balliol ». Et donc, vous aurez l'opportunité de dîner à la high table. Il pourra se faire que vous soyez assis à côté du professeur de sanskrit. De quoi parlerez-vous avec lui ? Vous voyez, c'est un test social. C'est, on n'a aucun mal à comprendre qu'un mathématicien peut parler avec un physicien ou avec un biologiste. Et donc, toutes ces disciplines sont dans une espèce de plan dont le sanskrit est exclu. Le plan est comme un axe imaginaire. De quoi est-ce qu'on peut bien parler avec un professeur de sanskrit ? Hein, la suggestion, c'est que si on arrive à discuter de quoi que ce soit avec le professeur de sanskrit, alors on saura se débrouiller socialement en toutes circonstances. Bon, pourtant, c'est quelque chose de relativement précis. Le sanskrit, c'est une langue ancienne sous le continent indien. La chaire de sanskrit au Collège de France a été fondée en 1815, en même temps que la chaire de chinois et de littérature chinoise, d'ailleurs. Et donc, les linguistes expliquent que le sanskrit est une langue du moyen indien qui est dans la famille des langues indo-européennes, une sorte d'intermédiaire entre une langue antique très ancienne qui est le védique, dans lequel sont rédigés le Veda. Donc les parties anciennes du Rig Veda, c'est moins 1500 avant Jésus-Christ. Et puis le sanskrit classique est une sorte d'intermédiaire avec les langues vernaculaires de l'Inde du Nord contemporaine, comme le hindi ou le bengali. Mais en fait, c'est relativement inexact. Les langues du nord de l'Inde de l'Antiquité, c'était le prakrit. Le prakrita bhasha, ça veut dire étymologiquement la langue naturelle. Donc les langues parlées, les langues vernaculaires parlées au nord de l'Inde quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, étaient ces prakrites. Par exemple, la Magadhi était la langue dans laquelle parlait le Bouddha, qui est devenu le Pali après. Alors que le sanskrit, donc il y a contraste entre prakrit et sanskrit. Prakrit, ça veut dire naturel, et prakrit, ça veut dire apprêté, raffiné. Et donc, c'est une langue plutôt savante, c'est une langue de littérature, et c'est une langue qui a été figée très anciennement par une grammaire, cette grammaire de Panini. Et donc, d'une certaine manière, le sanskrit n'est pas une langue naturelle, c'est un artefact de grammairien. Alors, ce n'est pas comme l'espéranto qui a été créé de toutes pièces à partir de différentes langues. C'était une langue qui était proche du prakrit qui était parlé par Panini au nord-ouest de l'Inde, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, les locuteurs du prakrit comprenaient le sanskrit, mais qui était particulièrement raffiné. C'est une langue de registre élevé, relativement solennelle, mais c'était une langue relativement artificielle à cause de l'existence de cette grammaire. Alors j'ai longtemps cru que cette grammaire, c'était une sorte de document historique, qui avait un intérêt historique. Alors qu'en fait, non, c'est un document formalisé, extrêmement précis, et qui décrit cette langue, le sanskrit classique, d'une manière extraordinairement et complète et exacte. Le grand linguiste américain Bloomfield a dit que la grammaire de Panini décrit le sanskrit de manière plus précise qu'aucune autre langue au monde. On n'a pas d'équivalent dans aucune autre langue d'une grammaire aussi parfaite. Alors c'est très étonnant. Comment se présente cette grammaire ? Est-ce que ça ressemble à la grammaire de Port-Royal ? Ou aux grammaires de Chomsky? Non, pas du tout. C'est un document étonnant. C'est un formulaire de 4000 règles complètement formalisées. Donc c'est pas un langage mathématique, mais c'est plutôt un langage informatique, en fait. Ça a été comparé à des langages d'ordinateur. En fait, pour un informaticien, on pourrait décrire ça comme une sorte de d'hexadécimal, de bytecode, d'une espèce de machine virtuelle très complexe. Et donc, ça ne se lit pas sans un entraînement extrêmement spécialisé. Il y a peu de spécialistes de grammaire de Panini en dehors des pandites indiens. On peut peut-être compter sur les doigts des deux mains les philologues et sanskritistes qui connaissent le fonctionnement de la grammaire de Panini complètement, voire la prennent par cœur, parce que cette grammaire était apprise par cœur. Les formules sont suffisamment concises pour pouvoir être mémorisées avec un entraînement spécialisé, évidemment, 4000 spoudras. Et donc, c'est assez étonnant. Alors, il y a plusieurs chapitres dans cette grammaire, il y a plusieurs couches. La première chose qui frappe, c'est qu'il y a une représentation exacte de l'espace phonémique du sanskrit. Les 50 phonèmes du sanskrit sont listés, caractérisés complètement par leur trait phonologique. Donc on a d'abord les voyelles, les diphtongues, et puis les consonnes qui ont trois traits phonétiques, les cinq points d'articulation sur le palais, la distinction entre sourd et sonore, et la distinction entre aspiré et non aspiré. Donc tout ça dans un grand tableau, c'est merveilleux, c'est extrêmement algébrique. C'est comme la table de Mendeleïev. Une fois qu'on a vu ça, quand on reconsidère l'alphabet français, par exemple, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Ça n'a aucun sens. Alors, ce n'est même pas Panini qui a trouvé ça. L'exploration de l'espace phonémique avait été entrepris par des grammairiens antérieurs pour apprendre à préserver les récitations du Veda avec les pratishakyas. Mais Panini a apporté un certain nombre d'innovations et a encapsulé dans cette grammaire une sorte de représentation complète de la langue qui a fait que les travaux des grammairiens antérieurs ont été perdus comme étant inutiles. Alors, peut-être que je montre un petit peu de sanskrit. Ah ben voilà, pour répondre à l'introduction. Voilà, ben c'est au commencement était le verbe. Adao Vadashi. Donc Adao, on peut cliquer sur Adao et voir que c'est une forme locative de Adi qui veut dire le début, le commencement. Hein. Donc on peut vérifier d'ailleurs sur la table de déclinaison de Adi qu'il y a bien Adao ici, hein, le locatif, vous voyez. Et puis, donc Vada, c'est la langue, l'argumentation, voilà. Donc c'est un agent de la racine Vad, on peut aller voir la racine Vad, qui est de parler, énoncer, dire. Voilà. Et à site, alors le bleu, c'est les substantifs, les formes nominales, et le rouge, c'est les formes verbales. Donc à site, on voit ici, c'est la racine as qui est le verbe être. Et les deux, la deuxième classe, et donc là on a la table de conjugaison de as, asti, et à l'imparfait on trouve bien asit. Mais il y a beaucoup d'autres formes, la morphologie du sanskrit est extrêmement riche. Voilà un petit aperçu, et donc on voit ici. Une des. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Voilà. Là-haut. Voilà, c'est. Donc, une première couche de la grammaire de Panini explique les formations morphologiques. Comment est-ce qu'on forme ces formes de mots? À partir de quoi? À partir de racines verbales. Donc, c'est une grammaire générative qui construit toutes les formes de la langue à partir d'un millier de racines verbales, et donc par recombinaison, par des propriétés d'affixation, on construit tous les mots de la langue par des procédés qui sont des procédés mathématiques, qui sont des juxtapositions de chaînes de caractères, des règles de réécriture, c'est-à-dire correspondant à aux travaux d'Émile Post, par exemple, dans les années 40, qui ont été développés après par les linguistes informaticiens qui ont développé des règles morphophonétiques qu'on retrouve dans Panini pour les règles de Sindhi, c'est-à-dire les règles qui permettent de faire la liaison. Alors, la grammaire est difficile à comprendre parce que c'est comme si on regardait le code d'un programme passé par un compilateur optimisant. C'est très déroutant. Et c'est difficile de comprendre comment Panini est arrivé à cette minimalité d'expression. Donc, alors il y a toutes sortes de controverses sur le sanskrit. Est-ce que c'est une langue morte? Est-ce que c'est une langue vivante? Est-ce que c'est une langue naturelle? Est-ce que c'est une langue artificielle? C'est un sujet très clivant. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'a jamais été la langue maternelle de quiconque dans l'Antiquité. Les femmes ne parlaient pas le sanskrit. Dans le théâtre sanskrit, le roi, les princes, les prêtres, les ministres parlent sanskrit, mais les femmes et les serviteurs parlent le prakrit, la langue vernaculaire. Et donc, le sanskrit a toujours été une deuxième langue, une langue apprise. Et une langue apprise à partir des fondements qu'a fait Panini. Alors, je peux peut-être trouver une photo. Alors, voilà, ainsi prendre autrement. Je vais jeter ça. Voilà. Donc les jeunes brahmines, à l'âge de 8 ans, ils quittaient leur famille pour aller en pension chez le maître et apprendre le sanskrit à la dure. Là, vous voyez, le maître est en train d'inculquer à l'élève l'accent védique. Et donc, il apprend l'accent védique par des mouvements de tête. Il y a trois accents védiques, et le maître positionne, en récitant le texte, positionne la tête de l'élève à ces trois positions. Voilà, ici, un autre accent. Et donc, il bouge la tête de l'élève comme ça, pendant que l'élève compte sur ses doigts pour compter les syllabes et vérifier le maître de la poésie. D'ailleurs, du point de vue, ça serait intéressant de faire des mesures sur des brahmines ayant cet apprentissage dès le plus jeune âge. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ce codage de l'accent en bougeant la tête, c'est juste pour l'apprentissage. C'est-à-dire que quand l'élève aura compris où mettre l'accent, alors il récitera correctement, mais ne bougera plus la tête. C'est un codage intermédiaire juste pour apprendre. Donc, l'élève apprend le sanskrit, puis après le maître va lui réciter les ouvrages qui font partie de son programme d'enseignement. Donc je reviens à la grammaire de Panini. Il y a toute cette couche qui vous explique comment faire les formes des mots, la morphologie. Et puis il y a une deuxième couche qui est au niveau de la phrase. C'est-à-dire que si vous construisez un certain nombre de mots, des noms, des formes verbales, comment les assembler pour faire une phrase qui ait du sens? Et donc Panini a défini tout un système qui maintenant peut s'expliquer avec la linguistique moderne, avec ce qu'on appelle les thétarôles. Ce sont des rôles sémantiques qui expriment une espèce de sémantique de la phrase comme une sémantique de rôle d'agent, de rôle d'acteur dans une situation. Donc c'est similaire à ce qu'avait essayé de faire Barwise avec une théorie des situations pour rendre compte de situations linguistiques. Et donc, par exemple, un verbe transitif va avoir un désir d'objet. Et puis, un verbe actif va évoquer l'agent de cette action, etc. Et donc, en fait, toute la grammaire de Panini, elle est difficile à comprendre parce qu'on mélange des aspects syntaxique, phonologique, morphologique, avec des aspects sémantiques. Et donc, il y a des conditions d'application des règles qui sont des conditions sémantiques. Si on utilise tel verbe dans tel sens, alors on a le droit de faire telle opération. Et puis, en construisant telle opération morphologique, alors on désigne l'agent de l'action représentée par le verbe. dans des notations extrêmement concises. Par exemple, Dvul. Dvul, c'est un espèce de codage qui dit « Ah, pour tout verbe, on peut prendre la racine et la porter au niveau vocalique élevé, vridi. » Et donc, par exemple, pour le verbe « faire »,« cœur », ça va former « car ». Nvul, le « vous », alors c'est une abréviation qui est définie dans un tout autre coin de la grammaire qui dit que c'est l'équivalent de la chaîne phonétique « aka ». Donc, quand vous mettez les deux ensemble, à partir de « cœur », vous obtenez « karaka ». Le « l » final, c'est la règle d'accent. Et donc, de manière extrêmement concise, on a packagé des milliers de formes de manière homogène pour toutes les racines. Alors là, donc, j'ai expliqué la formation du mot karaka, donc, qui veut dire acteur, et Panini a utilisé cette notion d'acteur justement pour expliquer comment est-ce qu'une phrase fait du sens sémantiquement avec ces notions de dépendance sémantique. Et donc on peut pousser ça. Alors les logiciens ont utilisé ça pour aller complètement jusqu'au bout récursivement et pouvoir exprimer la sémantique d'une phrase de sanskrit par une grande paraphrase logique, où par exemple le chat mange la souris. Ça va être exprimé par un mot composé extrêmement complexe qui va exprimer qu'il existe un nombre non différent de 1 de chats masculins qui est l'agent d'une action qui est de manger au présent de l'indicatif singulier et dont l'objet est un nombre non différent de 1 de souris femelles. Donc vous voyez, vous avez une espèce d'expression mathématique qui utilise le sanskrit comme, pas comme langue, mais comme métalangue pour exprimer la sémantique du discours. C'est extraordinairement moderne, le sanskrit. Alors finalement, il y a une dernière passe qui est que quand vous avez donc vérifié la cohérence, donc la grammaire n'est pas juste pour dire que la syntaxe est correcte, la phrase sanskrit doit faire sens à travers cette sémantique. La dernière étape consiste à faire l'énonciation continue en prenant les différents mots dans l'ordre qui vous intéresse. Donc si vous êtes poète, vous allez faire des dislocations pour ajuster au maître poétique, par exemple. Et puis, la dernière passe, ça va être de faire un lissage phonologique qui va lier ensemble ces différents mots dans un flux phonétique continu. Et donc, la représentation écrite, c'est une représentation exacte de comment prononcer la phrase. Donc, le sanskrit, c'est très simple. Ça s'écrit comme ça se prononce. Plus exactement, ça se prononce comme ça s'écrit. C'est-à-dire qu'on sait parler le sanskrit exactement comme Panini le parlait il y a 25 siècles. C'est étonnant, puisque les phonèmes sont définis par les points d'articulation, etc. On n'a pas de doute. Alors, donc une fois qu'on sait tout ça, on peut dire ah ben, on a compris le sanskrit maintenant, il suffit de comprendre la grammaire de Panini. Oui, mais pour moi, comprendre le sanskrit, c'est autre chose. C'est pouvoir lire une œuvre en sanskrit et la comprendre. Et ça, c'est autre chose. C'est le problème inverse. C'est comment est-ce que prendre le résultat de la grammaire de Panini, qui aboutit finalement à une chaîne phonétique, hein, comme une bande magnétique, comment eh bien, la segmenter en mots, comment trouver le sens des mots, etc. Il faut tout faire à l'envers. Et donc, ce n'est pas si facile que ça. Alors, les pandites indiens, pendant longtemps, ils n'ont pas compris ce que les informaticiens essayaient de faire, justement, ce procédé d'inversion. Mais puisque Padini a tout expliqué, c'est terminé. Et donc, j'explique qu'il y a une analogie arithmétique. Hein. Multiplier des entiers, c'est très facile. Par contre, décomposer un entier en facteurs premiers, c'est très difficile. C'est même la base de la cryptographie moderne. Donc, ce n'est pas parce qu'un calcul déterministe est facile qu'on sait l'inverser, parce qu'il y a un très grand non-déterminisme. Et donc, là, il faut comprendre comment retourner tous les processus. Alors, je vais passer à un autre exemple concret. Voilà, ben on va aller dans mon système, dans le corpus. Voilà, on va lire une petite base de données de citation. Voilà. 95 m'a l'air bien. Voilà. Tava chobate murkaha, yavat kinchina bachate. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? On peut comprendre, si on n'y connaît rien, on peut cliquer, on clique sur murkaha, et puis on voit que c'est un imbécile. Hein, c'est l'agent d'un verbe qui veut dire se solidifier. Et donc, on peut vérifier Murkaha, ici, là, ici, nominatif Murkaha. Et puis, etc. Shobate, c'est la racine Shub qui est de briller. Et donc, ici aussi, on trouve Shobate au moyen, voilà. Et puis, toutes les formes de Shobate, les participes sont très riches, vous voyez. Donc, chaque racine engendre littéralement des millions de formes. Voilà. Alors, donc, ici, là, quand... Alors, donc, les verbes sont en rouge, les noms sont en bleu, et les mots grammaticaux et les adverbes sont en violet. Et donc, le tavat, yavat, s'équilibre entre eux, ce sont des clauses relatives. Et donc, quand on débobine tout, ça dit les imbéciles brillent en société tant qu'ils n'ouvrent pas la bouche. On trouve toutes sortes de choses en sanskrit, il n'y a pas que de la religion. Alors, là, je voudrais simplement remarquer que, vous voyez, ce tabat chovaté, c'est un lissage entre ces mots, tavat et chobaté, tavat chobaté. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à couper la chaîne phonétique? Vous voyez ici, on a ici en devanagari tavat chobaté. Et donc, ce tche-tche, il faut couper la ligature au milieu et essayer de retrouver le T et le che qui ont des formes complètement différentes. Et donc, c'est là où il faut comprendre comment inverser ces règles de Sindhi qui sont la généralisation de la liaison en français. Mais c'est une liaison qui est complètement expliquée par des milliers de règles très précises qui correspondent physiquement à la minimisation de l'énergie quand on parle. C'est ça, la liaison. Alors, donc je voudrais me concentrer sur cette forme tavat chobaté et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'elle est obtenue. Alors, donc je vais partir dans le reader, je vais mettre la forme tavat chobaté, c'est de la devanagari, je le lis, et... En fait, je vais le lire dans un mode où tout va être explicité. Et donc, voilà, on trouve ici Voilà. Donc vous voyez, ici, j'indique que l'adverbe tavat est suivi de shobaté, mais entre les deux, il y a cette règle morphophonétique qui dit que t suivi de che devient tch. Alors, donc, dans les années 90, les linguistes de Xerox avaient produit des boîtes à outils pour pouvoir faire ce travail. Mais c'était propriétaire et donc on n'avait pas le droit d'avoir les sources, etc. J'ai dû réinventer un peu tout ça. Et je vais juste vous donner un exemple de comment est-ce qu'on fait ça. Je vais faire une preuve avec les mains. Là. Donc ici on a Tavat et ici Shobaté. Et donc Tavat, Shobaté. Ici on a la liaison, le T et le che deviennent che. Et donc, maintenant, il suffit de comprendre. Vous voyez le tavat, là, on va le lire dans le dictionnaire. Les dictionnaires sont représentés par des automates finis déterministes particuliers qui sont les arbres lexicaux. Et donc ici, ça va très vite de lire tavat, mais il ne faut pas aller de ce côté. Il faut maintenant deviner qu'il peut y avoir Sandy avec une règle de réécriture qui va utiliser la première lettre du mot suivant. Et donc ici, il faut mettre une indication dans l'automate, une transition non déterministe, qui dit que peut-être on peut se raccorder, non pas ici, mais là, à la distance 1. Et donc, avec des automates correctement annotés, on fait ça très bien. Et puis, si on a les bonnes structures de données pour faire du partage, alors on arrive, mais comment on arrive ? D'abord, il faut préalablement calculer toutes les formes des mots, et pour ça, on utilise la grammaire de Panini, bien sûr. Et une fois qu'on a tous ces mots, alors, sur les dictionnaires, on fait cette compilation en automates transducteurs qui vont maintenant chercher toutes les solutions possibles pour pouvoir faire cette augmentation de la phrase en mots. Voilà. Donc, je vais peut-être arrêter de donner trop de détails et montrer. Voilà mon étudiant Bruno Benoît Razé, qui, il y a une dizaine d'années, est venu travailler avec moi, et donc je lui avais demandé d'expliquer un petit peu mathématiquement mes algorithmes, et je lui avais donné à lire une œuvre du mathématicien Eilenberg, qui est une œuvre très importante. Automata, Languages and Machines. Alors, j'ai aussi une photo d'Eilenberg quelque part. Voilà. Ici, alors nous reconnaissons Eilenberg à gauche, Seymour-Ginsberg à droite, et au milieu, Marcel-Paul Schützenberger, l'algébriste français, voilà, toujours la clope au bout du doigt. Et donc, Eilenberg, qui est un mathématicien très fameux, c'est un topologue qui a fait les fondements de la théorie des catégories avec MacLane, et puis qui, à la fin de sa vie, a travaillé avec Schützenberger à cette œuvre qui sont les Automata, Languages and Machines, qui est un ouvrage tout à fait méconnu, parce qu'il est mort avant d'avoir fait les volumes CED. L'éditeur a perdu intérêt, n'a pas réimprimé le bouquin, donc c'est pratiquement introuvable. Alors que c'est une vue très élégante des automates et des langages formels. Et donc en particulier, dans cet ouvrage, il annonce la notion de « X-machine », et donc ces machines d'Eilenberg, ce sont des objets extrêmement élégants qui permettent de rendre compte des automates finis, des transducteurs, mais également de machines de complexité plus haute, comme les machines de Turing, etc. Ce sont des machines relationnelles. Et ces machines relationnelles, donc Benoît Razé a montré que mes processus pouvaient s'expliquer comme composition de machines d'Heisenberg. Et donc on a une jolie théorie qui est maintenant basée sur des objets mathématiques. Alors que même aujourd'hui, à l'université, on enseigne les automates finis comme des espèces de bestioles qui ont un ruban, une tête de lecture qui peut se déplacer, et puis un graphe de transition. Donc c'est des objets qui ne sont ni mathématiques ni physiques. C'est des monstres. Alors que les machines d'Heisenberg sont des objets mathématiques tout à fait standards. Donc j'arrive à peu près au bout de mon temps de parole. Je vais peut-être montrer ce qu'on sait faire à peu près de mieux dans le traitement du sanskrit aujourd'hui. On sait aller plus loin que donc segmenter, trouver l'analyse morphologique, etc. Mais on sait également faire ce calcul de contraintes qui permet de vérifier la sémantique en construisant ce qui s'appelle un graphe de dépendance. Et donc ça peut être fait par des calculs de contraintes. Alors, où est-ce que je vais trouver un exemple de ça ? Voilà, bon, voilà un qui va. Voilà. Alors ici, on a un autre dicton qui dit caca c'est le corbeau, xiram c'est le lait, pitois ayant bu, coquila c'est le coucou indien, bavati c'est devenir, reina c'est la négation. Et donc, c'est dit un corbeau ne devient pas une colombe en buvant du lait. Eh bien, on peut analyser, une fois qu'on a fait cette segmentation, alors on peut appeler le système d'une collègue indienne qui fait les calculs à partir des miens, et donc on enchaîne des services web, voilà, pour finalement aboutir à une représentation graphique du sens de cette phrase. Voilà, où ce graphe sémantique, voilà, il dit que le prédicat principal c'est bavati, le verbe, que son agent karta c'est le corbeau, kaka, que pitoi, voilà, c'est une forme absolutive, et donc c'est. Elle précède l'action principale qui est bavati par ce lien qui est pourvakala, qui veut dire dans un ton intérieur. Et donc dans un ton intérieur, le corbeau, vous voyez le lien karta en pointillé, il y a partage du rôle de l'agent entre la clause absolutive et la clause principale. Voilà. Et donc quand on examine ce graphe et ses étiquettes, on a le sens sémantique de la phrase. Voilà.
Merci.